Pierre-François Lassener, Mémoire. Mon père descendait d'une famille de bons cultivateurs de la Franche-Comté. Il était né, autant que je puis le croire, en 1745. Ce pays, comme on le sait, avait été arraché depuis peu à la domination espagnole et conservait encore beaucoup d'usages de sa mère patrie. Mon père était l'aîné de 6 enfants. Aussi, ses parents, quoique assez à leur aise, ne pouvaient, sans compromettre l'avenir du reste de la famille, faire de grands sacrifices pour son éducation. Indépendamment de ses maisons raisons de fortune, les bons et naïfs paysans, conservant avec vénération les coutumes de leurs ancêtres, ne faisaient pas consister leur amour-propre à élever leurs enfants au-dessus d'eux, pour savoir un jour mépriser. Aussi mon père eût-il couru grand risque de demeurer toute sa vie un simple et honnête cultivateur, si le curé et le seigneur de la paroisse l'eussent pris en affection à cause du grand respect qu'il témoignait pour tout ce qui tenait à la religion. De cette manière, mon père acquit une espèce d'instruction telle que pouvait la lui donner un curé de campagne. Il eut un autre avantage, ce fut celui d'être admis de temps en temps au château dont le seigneur et maître lui témoignaient cette bienveillante condescendance et cette supériorité affectueuse qui valait bien, à mon sens, la morgue et le pédantisme de notre aristocratie financière. De cette double fréquentation, il résulta deux choses. D'abord, mon père en ne fit que se fortifier dans son amour pour la religion et ses ministres, qu'il regardait aussi comme infaillible que le pape. Ensuite, étant reçu chez des gens qui lui étaient supérieurs par la naissance, il s'imagina qu'il en réalisait sur lui un certain lustre qui devait diminuer en proportion de la décadence de la noblesse et qu'il se crut obligé, autant par reconnaissance que dans l'intérêt de son amour-propre, de défendre en toutes circonstances. Aussi ai-je toujours vu mon père, le défenseur le plus zélé et le moins éclairé, à vrai dire, de l'aristocratie et du clergé, et l'antagoniste le plus aveugle et le plus forcené de tous ceux qui s'avisaient de les dénigrer. Je ne croirais pas trop m'avancer en disant qu'il eût signé de bon cœur leur arrêt de mort, tant le fanatisme religieux et politique rend injuste et barbare. Une autre cause qui a sans doute contribué puissamment à déterminer chez mon père cette humeur impérieuse, ce caractère tracassier, enfin cette raideur indomptable dans le commerce de la vie, dont au reste il a été lui-même la première victime tout en faisant le malheur de ceux qui l'entouraient, ce fut, je crois, d'être l'aîné de sa famille. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'était alors et ce qu'est presque encore aujourd'hui le droit d'aînesse, même chez le simple paysan de Franche-Comté, pays à mœurs patriarcales, et qui n'avait encore secoué aucun de ces vieux préjugés qui, tout ridicules qu'ils paraissent quelquefois, font peut-être le bonheur de la société. L'aîné de la famille en Franche-Comté en est aussi le chef. Il représente le père en son absence. Tous les autres membres lui portent le plus grand respect et ne se permettent jamais de le tutoyer. Il n'est donc pas étonnant que mon père, habitué dès son enfance de voir autour de lui que soumission et obéissance de la part de ses autres frères, ses égaux par nature, ait toujours conservé, depuis, un caractère dur et intolérable avec ses semblables, tandis qu'il était obséquieux et presque servile à l'égard des prêtres et des nobles, qu'il avait pris l'habitude également dès l'enfance de regarder comme des créatures d'une essence bien au-dessus de la sienne. Je m'arrête peut-être trop longtemps sur ces détails au gré de beaucoup de personnes, mais je les crois nécessaires et même indispensables pour faire connaître comment s'est formé le caractère de mon père, qui a une si grande influence sur le mien, par rapport à l'éducation qu'il crut devoir me faire donner. La sienne, comme je l'ai dit, s'était bornée à peu de choses, malgré la bonne volonté de son pasteur. Lire, écrire, calculer, tant soit peu d'orthographe et de français, c'est à quoi ont été réduites toute sa vie les connaissances et l'instruction de mon père. quelque peu brillante que fût une semblable éducation, elle l'empêchait néanmoins d'être d'aucune utilité à sa famille pour la culture et l'exploration des terres. Aussi, à peu près dès l'âge de 20 ans, ne voulant plus lui être à charge, il se munit de quelques lettres de recommandation, d'une 100aine de francs, et s'en vint tenter la fortune à Lyon. Ce fut le dernier secours qu'il tira jamais de son pays. Il a été le propre artisan de sa richesse qui, comme elle arrive à tant d'autres, n'a pas pu faire son bonheur. Du reste, mon père avait absolument tout ce qu'il fallait pour réussir dans le commerce de Lyon, tel qu'il était à cette époque. Laborieux, tenace, sobre, économe, sédentaire, aussi ennemi des novations que des plaisirs les plus innocents, il dut plaire à ces négociants routiniers qui faisaient alors le commerce comme on fait du pain aujourd'hui. Aussi, après avoir passé par tous les grades subalternes, il devint tour à tour teneur de livres, chargé de la correspondance, puis enfin associé de la maison Albert Frère, marchand de fer en gros à Lyon. Depuis cette époque, jusque vers 1792, 20 années de l'existence de mon père peuvent se résumer par ces deux mots, travail et économie, auxquels il faudrait ajouter, comme distraction, de violentes discussions politiques, même avec ses meilleurs amis, qui n'avaient jamais le don de pousser l'exaspération à un aussi haut degré contre les idées nouvelles qui surgissaient en France. À cette époque, c'est-à-dire en 1792, la fortune de mon père était à peu près faite. Il avait alors environ 47 ans, et cependant il était encore garçon, n'ayant trouvé aucune femme dont le caractère lui parut assez souple, assez malléable, pour pouvoir s'accorder avec le sien. Un tel trésor devait être difficile à rencontrer. C'était pour ainsi dire une victime de tous les instants qu'il fallait à mon père. Il lui était resté, réservé, de la trouver. Bien que riche et célibataire, mon père, toujours fidèle à ses principes d'ordre et d'économie, n'avait pas cru convenable de se monter une maison. Il s'était mis en pension, tant pour la table que pour le logement, chez une pauvre veuve chargée de 4 enfants, qui, pour aider un peu à sa dépense, tenait des pensionnaires autant que la distribution de son appartement pouvait le lui permettre. Cette veuve avait été récemment éprouvée de grands malheurs. Son mari, peintre ou plutôt dessinateur distingué, mais possédé de la passion du jeu, venait, à la suite de pertes considérables qui le réduisaient à un état voisin de la misère, de mettre fin lui-même à son existence, et de laisser sa malheureuse veuve, comme je l'ai dit, avec la charge de 4 enfants, tous incapables de l'aider. L'aînée de cette triste famille fut ma mère. En rentrant le soir, un peu avant le moment de se coucher, mon père causait avec elle, car c'était la seule personne de sa famille qui pût soutenir une conversation avec un homme d'un caractère aussi sérieux. Et en causant ainsi, presque tous les soirs, il avait été à même d'apprécier la douceur et la flexibilité de son humeur, et l'amour avait succédé facilement à l'estime dans le cœur d'un homme qui vivait d'une manière très retirée et avait peu de rapport avec le beau sexe. Cette inclination n'avait rien de surprenant, si l'on considère que ma mère, alors dans la fleur de la jeunesse, était douée d'une beauté remarquable. Mon père fut pourtant longtemps à se décider. La différence d'âge l'effrayait. J'ai dit qu'il avait 47 ans, ma mère en avait 18. Cependant, toute réflexion faite, malgré ses disproportions et l'inégalité de fortune, chose à laquelle, il faut le dire, il ne songeait nullement, il la demanda en mariage. On doit penser comment une semblable proposition dut être accueillie par la bonne veuve, qui peut-être n'avait pas été sans quelque intention secrète, en laissant si souvent en tête à tête sa fille avec son pensionnaire. Quoi qu'il en soit, lui riche, elle pauvre, l'affaire fut bientôt conclue. Et ce qui lui eut peut-être de plus étonnant, et ce que ma mère m'a rapporté elle-même, c'est que malgré sa jeunesse, ce fut aussi de son côté un mariage d'inclination. Bizarrerie d'autant plus inconcevable que même avant l'hymen et dans le moment où il était empressé de lui faire la cour, mon père avait eu de la peine à dissimuler son caractère grondeur et bourru. Pouvait-elle prévoir que cette union, si vivement souhaitée par les deux parties, deviendrait pour elle une source de contrariété, de misère et d'infortune qui ne se sont terminées qu'à sa mort? Heureuse encore de n'avoir pas vécu jusqu'à ce moment. Deux mots sur ma mère. Je n'ai jamais connu de femme plus sincèrement dévote, sans bigotisme, plus profondément vertueuse, sans pruderie, plus sensible aux pertes des autres, plus indulgente pour leurs défauts et plus résignée dans ses propres souffrances, qu'elle a toujours dissimulé autant que possible à celui qui l'en a abreuvé toute sa vie, même en la chérissant. Mais ce qui fait un éloge complet de ma mère, c'est que je ne me souviens pas de l'avoir entendu médire d'une personne de son sexe. Excepté moi, je ne pense pas que quelqu'un ait jamais eu à se plaindre d'elle. Pourquoi faut-il que je sois forcé de lui imputer une partie de mes malheurs et de mes défauts, nés de son injustice à mon égard? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui vienne l'accuser, moi qui l'ai tant aimée depuis et qui aurais mille fois donné ma vie pour elle et sacrifié mon bonheur au sien? Mais je me suis engagé à dire toute la vérité, et comment pourrais-je me faire juger si par des considérations qui paraîtront de convenance à quelques personnes, je dissimulais certaines circonstances qui ont eu tant d'influence sur mon avenir? Si ma mère eût vécu, rien n'eût pu me décider à ouvrir la bouche. Heureusement, elle a quitté cette terre qui n'eut pour elle que des douleurs. J'ai dit heureusement, car je puis ajouter comme Œdipe, ô ciel, et quel est donc l'excès de ma misère, si le trépas des miens me devient nécessaire? Je me croirais donc d'autant moins blâmable à cet égard que je n'ai à l'accuser que d'injustice dont j'ai été la seule victime, tandis qu'elle a toujours été aussi juste que bonne pour ceux qui l'approchaient. Puisse cet enseignement n'être pas perdu pour bien des parents. Reprenons. Dès les premières années de son mariage, ma mère avait cessé d'être heureuse et avait pu commencer à entrevoir la source de chagrin qu'elle s'était ouverte en unissant sa destinée à celle d'un homme d'un caractère aussi sauvage qu'irascible. Outre ce que ses emportements et ses susceptibilités lui apportaient de souffrance à elle, fraîche et délicate créature, sa jalousie fut encore pendant un certain espace de temps un supplice de plus pour elle. Il faut pourtant rendre cette justice à mon père que, homme aveugle mais de bonne foi, il fut bientôt trop persuadé de la vertu de sa femme pour conserver aucun doute à cet égard. Et il s'était cru cependant autorisé, pendant quelque temps, à concevoir des soupçons. Que l'on se peigne en effet un homme du caractère de mon père, fuyant le monde et la société qu'il avait toujours importunée, celle des prêtres exceptés. Qu'on se peigne, dis-je, un homme semblable, uni à une femme qui aurait pu passer pour sa fille, et qui, par sa beauté, ses talents et les succès qu'elle obtenait dans le monde, ne devait pas désirer de lui dire un éternel adieu. Dans les premiers temps, il fut assez juste pour concevoir qu'il ne devait pas la priver de ce qui faisait son bonheur. Mais bientôt, il se fatigua de la voir l'objet de mille petits soins et de mille compliments qu'on lui adressait de toutes parts, tandis qu'on s'inquiétait assez peu de lui. Alors, sans lui faire une défense absolue, qu'il était sûr de voir respectée par ma mère, il lui chercha tant de mauvaises querelles de mari, il lui fit des scènes si fâcheuses toutes les fois qu'il la ramenait des soirées où elle avait été invitée avec insistance, que ma mère comprit ses intentions. Et autant pour le repos de son mari que pour le bien propre, elle se décida à ne plus voir le monde et à rester continuellement chez elle. C'est à ce genre de réclusion qu'elle a été condamnée le reste de sa vie. Et sauf nos parents les plus proches, il n'y a jamais eu de réunion à la maison qu'en l'honneur des prêtres et pour le triomphe de la bonne cause. Ah, je vous laisse à penser quel séjour amusant pour une jeune femme. 6 ans s'étaient écoulés depuis leur hymen et mes parents n'en avaient aucun fruit. Mon père, qui avait toujours continué le commerce, possédait alors 400 à 500 000 francs. Ne comptant plus désormais se créer des héritiers, il jugea à propos de se retirer des affaires. De sorte qu'après avoir liquidé de son commerce, il acheta une superbe propriété à 2 heures de Lyon, à Francheville, où il se retira avec ma mère, espérant y passer le reste de ses jours dans la tranquillité, l'abondance et l'abri des revers de la fortune et des orages politiques. C'était alors en 1797. Le calme venait peu après de renaître en France, après d'effroyables tempêtes. Lyon avait été assiégée. On se souvient des horreurs dont cette ville fut victime à cette époque si critique pour elle. Mon père avait pris une part active à toutes ces agitations. Il est inutile de dire que c'est en qualité d'aristocrate. Sa vie avait été plus d'une fois en danger. Tous les hommes de son opinion avaient été décimés ou dispersés. Un ordre de choses qu'il détestait avait prévalu en France et y avait remplacé les objets de son premier culte. On ne sera donc pas étonné si son humeur, déjà si peu sociable, s'était aigrie à un tel point que la société lui est devenue tout à fait insupportable. Nul doute que s'il eût été marié, il n'eût partagé le sort des émigrés. Il y avait de la ténacité, de la grandeur dans son caractère. Heureux si une éducation plus complète eût déraciné chez lui le fanatisme. Mais que dis-je? Chaque chose n'a-t-elle pas son abus? Et d'ailleurs, est-ce à moi de parler des bienfaits de l'éducation? Un an, tout au plus, après que mes parents se furent retirés du monde dans lequel ils pouvaient bien ne jamais rentrer, ma mère devint enceinte, puis accoucha d'un fils. C'était mon frère aîné. Je parlerai de lui en temps et lieu. Qu'il suffise de dire en passant que j'ignore ce qu'il est devenu. Il y a près de 6 ans que je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Je ne puis donc pas savoir s'il est mort ou vivant. S'il vient à me lire par hasard, il sera sans doute peu flatté du portrait que je fais de lui, mais au moins il rendra justice, j'espère, aux vérités que j'avance. La naissance d'un fils ne dérangeait encore en rien les calculs et les projets de retraite de mon père. Certain jusqu'alors de laisser une fortune plus que suffisante à l'héritier de son nom, il accueillit, ainsi que ma mère, comme une véritable faveur de la Providence, sur laquelle même il ne devait plus compter. Espoir trompeur et trop déçu. Il semble que ce soit en exauçant leurs désirs les plus ardents que la fortune prenne plaisir à accabler les hommes de souffrances inattendues. Il semble, dis-je, que cette bizarre fortune, que ma mère avait sans doute accusée plus d'une fois d'une stérilité qui l'affligeait, se soit faite un malin plaisir de la doter ensuite d'une inconcevable fécondité. 13 grossesses successives durent la convaincre encore mieux que l'épouse d'Abraham, que sa postérité ne devait pas s'éteindre de sitôt. Peut-être le sera-t-elle dans peu de temps, mais ce ne sera pas sans une longue et cruelle agonie, car peu de familles ont éprouvé autant de revers et de malheurs que la nôtre, et je suis même persuadé que c'est moi qui ai été le plus heureux de tous ceux qui l'ont composé. Ma mère avait été comblée de joie à la naissance de ce premier fruit de son hymen. Elle nourrit elle-même mon frère et lui prodigua tous les soins dont la mère la plus tendre est capable. Retiré au fond d'une campagne, privé de toute société, condamné à un isolement pour lequel elle n'était pas faite, il ne fallait rien moins qu'un semblable événement pour lui faire prendre goût à une existence si monotone. Aussi concentra-t-elle toutes ses affections sur ce fils qu'elle avait attendu si longtemps. Il lui suffisait seul. Elle m'a avoué même qu'à ce moment, elle lui donnait l'impossible pour ne pas avoir d'autre enfant. Il n'est donc pas étonnant que la naissance d'un second l'ait, malgré elle, affecté d'un sentiment de déplaisir. C'était ma sœur aînée, pauvre enfant, morte à 17 ans, dans toute la fleur de sa beauté. Morte sans avoir éprouvé aucune jouissance ici-bas. Chère sœur, tu fus ainsi que moi, l'objet des injustices de ta mère, mais, plus sensible que moi, tu devais succomber aux souffrances qui torturaient ton jeune cœur. Tu fus ma seule amie, et pourtant, il m'a été impossible de répondre à tes empêchements fraternels. Tu me crus souvent insensible à ces caresses, et pourtant, une autre fille, morte en nourrice, accrut encore les répugnances de ma mère pour une nouvelle progéniture. Ces grossesses étaient extraordinairement laborieuses et pénibles. D'un tempérament délicat et valétudinaire, c'était tout ce qu'elle avait pu faire que de sevrer mon frère aîné. Elle avait été obligée d'abandonner ma sœur à des soins mercenaires. Ce fut dans ces malheureuses circonstances que je fis mon entrée dans le monde en 1800. Ma naissance ne procura aucun plaisir à mes parents. On eut même hâte de se débarrasser de moi et je fus immédiatement confié aux soins d'une nourrice qui délivra mes parents d'un hôte importun. Pour ne plus revenir sur ce sujet, je dirais que des 13 grossesses de ma mère, il ne resta que 6 enfants. Mon frère, 4 sœurs et moi. Avant de continuer, je dois faire une observation au lecteur. Si je parle avec tant de détails et de précision de certaines circonstances qui ont eu lieu presque au sortir de mon berceau, c'est que d'abord ces circonstances m'ont frappé, tout jeune que j'étais, et que j'en ai conservé un fidèle souvenir, souvenir d'ailleurs confirmé par les aveux et confidences que ma mère m'a fait à une époque bien plus récente. À une époque où, quoique déjà proscrit par la société, elle me jugea plus digne que jamais de toute sa tendresse et me dédommagea amplement de ce qu'elle m'avait fait souffrir dans mon enfance par la seule faiblesse de son caractère. Je vais essayer de me peindre ici tel que je suis sorti des mains de la nature. Par ce que je suis maintenant, on jugera de la différence que l'éducation, les circonstances et ma propre volonté ont apporté à mon caractère primitif. Quant au physique, où j'avais un corps grêle et délicat en apparence, comme encore aujourd'hui. Quoique j'aie toujours été d'une constitution robuste, je crois qu'il y a bien peu de personnes plus maigres que moi. Mais, comme pour donner un démenti à cette chétive construction, je n'ai jamais été malade de ma vie. J'étais très coloré dans ma jeunesse, je pense même, sans avoir été précisément beau garçon, que j'avais une physionomie assez remarquable. J'avais de fort beaux cheveux, bien que clairsemés. S'ils ont blanchi avant le temps ordinaire, c'est plutôt à l'étude et à une réflexion continuelle qu'il faut l'attribuer qu'au malheur et au chagrin qui ont eu peu de prix sur mon âme, aussitôt que je l'ai voulu. Il semble que la nature se savait un jeu cruel de rassembler en moi tous ses dons les plus précieux pour me faire parvenir à ce que le monde appelle le comble de l'infamie et du malheur. J'étais né avec toutes les qualités qui peuvent faire le bonheur de l'individu et l'ornement de la société. Est-ce ma faute si j'étais obligé de les fouler aux pieds moi-même? J'avais un cœur délicat et sensible. Porté à la reconnaissance et aux plus tendres affections, j'aurais voulu voir tout le monde heureux autour de moi. Rien ne me paraissait si doux et si digne d'envie que d'être aimé. La vue du chagrin d'autrui m'arrachait des larmes. Je me souviens, à l'âge de 7 ans, d'avoir pleuré en lisant la fable des 2 pigeons. Je devinais à cet âge, étant seul et isolé, quel sentiment c'était que l'amitié. Mon esprit vif et pénétrant eût fait de moi un homme plus brillant que solide, Si les injustices dont j'ai été l'objet au sein de ma famille ne m'eussent point ainsi dire forcé de me replier en moi-même, de chercher mes jouissances dans mon propre cœur, et de me dépouiller d'une sensibilité que je dus regarder comme un présent funeste, et dont la nature ne dotait que ce dont elle avait résolu le malheur. Voyons comment ces idées me sont venues, et puis cette leçon n'être pas perdue pour bien des parents. Porté à l'affection et à la reconnaissance, comme je viens de le dire, je m'étais singulièrement attaché à ma nourrice, de sorte que, lorsqu'après m'avoir ramené à la maison paternelle, elle fut sur le point de se séparer de moi, je m'abandonnais aux pleurs et à la désolation, ce qui aurait dû donner à ma mère une bonne opinion de mon cœur et lui prouver que je savais reconnaître les soins que l'on me donnait, fut précisément ce qui l'irrita contre moi, parce que, quoique bonne, elle était faible et peu éclairée. Peut-être avait-elle besoin d'épancher sur un autre l'amertume dont elle était abreuvée depuis longtemps, sans oser se plaindre. Peut-être aussi fut-elle injuste de bonne foi et faute de réflexion. Après avoir abandonné mon enfance à une étrangère, et s'être reposée sur elle de sa charge de mère qu'elle ne pouvait remplir dans toute son étendue, elle se persuada pourtant que la nature seule aurait dû me la faire distinguer et reconnaître, tout en oubliant d'un seul coup celle qui l'avait remplacée. Ce fut donc probablement une susceptibilité mal dirigée qui la rendit injuste pour la première fois. Et puis, il faut le dire, on avait deux enfants à la maison. C'était assez et même trop. Ma petite sœur Julie, arrivée avant moi, s'était déjà ressentie de cette disposition d'esprit. Elle n'était pas plus heureuse que je l'étais destinée à le devenir. À mon retour chez mes parents, je restai plusieurs jours désolé de l'absence de ma nourrice, d'où il fut conclu et décidé que j'étais un enfant maussade et détestable. On m'eût volontiers renvoyé si on l'eût osé, tellement ma mère avait conçu de répugnance pour moi pendant ce peu de temps. On prit à mon égard un terme moyen, et, pour se débarrasser à peu près de ma personne déplaisante, on m'abandonna tout à fait aux soins et à la sollicitude d'une jeune fille de 17 ans qui remplissait chez nous les fonctions de vachère, mais qui, en cette circonstance, fut socialement érigée pour moi en bonne d'enfant. Ce fut pour moi un bienfait du hasard que le choix que l'on fit de cette fille pour prendre soin de mon enfance. Marie était bien un véritable trésor de tendresse et de sensibilité. Je peux dire avec justice que, sans en excepter même ma mère, c'est la femme la plus parfaite que j'ai jamais connue de toute ma vie. Cette pauvre enfant me prit en affection, en proportion même des rebuts dont elle me voyait accablée par mes parents. Elle veillait sur moi avec plus de sollicitude qu'une véritable mère. Nous nous comprenions tous les deux comme si j'eusse déjà atteint l'âge de raison ou comme si elle eût été un enfant de mon âge. Que de fois elle m'a consolé, que de fois elle a mêlé ses larmes aux miennes pour essayer de détourner le fiel dont elle voyait mon cœur se gonfler. Quel amour, quel dévouement pour un enfant qui ne lui était rien. Ô femme, vous êtes seule capable de ces sentiments-là. Il faut avouer que je lui rendais bien. Lorsque, ça et là, par caprice ou par distraction, ma mère m'ôtait de ses bras, ce n'était que pleurs et trépignements. Que voulez-vous? Ma mère à moi, c'était celle qui m'aimait, qui me soignait. Oh, le méchant enfant, pauvre mère, que tu me connaissais mal. Que de peine tu nous aurais épargné à tous deux si tu eusses voulu lire dans mon âme, comme tu l'as fait plus tard. Quel changement eût apporté dans mon existence un seul de ces baisers de mère auxquels un enfant ne se trompe jamais, et que j'étais mieux que bien d'autres dignes de savourer. Car ces émotions, je vous les retrace de mémoire telles que je les ai ressenties alors. Elles ne se sont jamais effacées de mon cœur. C'est un pesant fardeau qui a sans doute été plus lourd pour ma mère que pour moi. Que ses pleurs m'auraient bien vengé si j'avais pu demander vengeance contre ma mère. Femme toujours sensible, mais quelquefois aveugle, qui avait de ses préférences injustes en faveur d'un de vos enfants. Mère qui tenait auprès d'eux la place de la Providence, qui devait être leur divinité. Apprenez qu'un fils qui peut accuser sa mère d'injustice ne sera jamais ni vertueux ni religieux, et que rien ne peut remplacer dans son cœur vos premières caresses et votre premier amour. Si ma mère m'avait vu en quelque sorte de mauvais œil dès mon arrivée au logis, il n'en fut pas tout à fait ainsi de mon père. Ma mine espiègle et éveillée, mes saillies enfantines, lorsque rien ne m'affectait péniblement, l'émerveillait et faisait qu'il aurait toujours voulu savoir sur ses genoux. Mais, comme sa conduite à mon égard était inégale, ainsi qu'avec tout le monde, je ne pouvais me livrer franchement à ces boutades de tendresse paternelle, démenties en mille autres circonstances, et surtout par les préférences de la partialité dont il usait à l'égard de mon frère, peut-être sans s'en rendre compte à lui-même. Mais que l'œil d'un enfant et surtout d'un fils est pénétrant, que le moindre regard, le moindre geste est pour lui significatif. Je m'étais d'ailleurs si bien attaché à la bonne Marie que je n'étais rien bien que dans ses bras. Elle commença à devenir importune à mon père autant qu'elle l'était à ma mère, parce qu'elle avait trouvé le secret de se faire aimer d'un enfant que ses parents dédaignaient. Une sorte de mépris, de querelle auquel elle n'était en but pour la forcer à demander un congé qu'on osait lui donner sans motif apparent, car elle était aimée et estimée de tout le reste de la maison. Que de dégoût n'a-t-elle pas essuyé, sans se plaindre, pour me conserver ses soins et sa tendresse à moi, triste enfant, qu'elle voyait rebutée de sa famille. Comme elle sentait bien qu'il y avait qu'elle pour me soutenir contre tous. Ah, demandez-lui si je fus méchant à cette femme qui a élevé mon enfance et m'a tenu lieu de mère pendant 10 ans, à côté même de la mienne. Demandez-lui si je méritais alors d'être aimé à elle qui, depuis que nous sommes séparés, n'a jamais pu me revoir sans pleurer. Ah, trouvez-vous ridicule ce long souvenir que je donne à cette pauvre fille sans éducation, qui, lorsqu'elle me voyait revenir les larmes aux yeux d'auprès de ma mère et pénétrée de son injustice, me disait en mêlant ses larmes aux miennes, « Que veux-tu, mon pauvre enfant? C'est ta mère, il faut toujours bien lui obéir. Tu verras que Dieu te bénira et qu'elle finira par t'aimer. » Ô vous qui voudriez avoir le modèle de toutes les vertus sur la terre, allez à Francheville. C'est là que vous trouverez sans doute encore aujourd'hui cette femme, je peux dire, sublime dans son état d'abaissement. Je l'ai revue bien souvent. Elle est mariée à un homme dur et brutal, dont elle supporte les défauts avec une patience héroïque. Mère d'une nombreuse famille, elle a bien de la peine à élever, elle vit dans la misère, sans accuser la Providence qui ne lui a peut-être pas accordé un seul jour de bonheur. Jamais son œil ne se leva contre le ciel pour lui adresser un reproche. Marie, pardonne-moi, je ne pensais pas à toi lorsque j'ai nié la vertu. Puisses-tu, pour prix de tout le bien que tu m'as fait, ne jamais apprendre mon sort? C'est mon dernier vœu pour ton bonheur. Lorsque je fus convaincu que rien ne pouvait me gagner le cœur de mes parents et les faire revenir de leur partialité pour mon frère, je descendis dans ma conscience et je me demandais de bonne foi s'il y avait de ma faute. Ma conscience me répondit que non. Alors je cessai tout à fait de m'en affecter et je me raidis contre leur froideur. Dès ce moment, mon cœur fut fermé à mon père et il n'en fut pas de même pour ma mère. C'est qu'elle, un fils, ne peut jamais cesser d'aimer sa mère. Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque que se fit en moi un changement miraculeux et sans que personne puisse s'en apercevoir, ni même s'en douter. des idées grandes et fortes se présentèrent à moi. Je devins homme, mais pour moi seul, à l'âge de 8 ans. Dès lors, l'éducation ne put rien faire sur moi. Ce fut moi qui fis mon éducation morale. C'est moi qui me suis fait ce que je suis aujourd'hui. Cessez donc aux moralistes d'accuser la philosophie du XVIIIe siècle de ce que vous appelez ma démoralisation. Apprenez que lorsque je lus pour la première fois Helvétius, Diderot, Volney et Rousseau, il me sembla que je les lisais pour la seconde fois, ou du moins que je retrouvais chez eux une partie de mes idées, et j'avais alors 12 ans. On sera peut-être étonné que je ne parle pas de Voltaire. Je dois dire ici, avec franchise, que je ne l'ai jamais aimé ni estimé, et que la seule chose par laquelle il a excité ma sympathie, c'est la rare impudeur avec laquelle il s'est joué du genre humain, qui, à mon avis, mérite bien ce mépris. Sans vouloir m'avantager, nul doute que, si dès lors j'eusse voulu donner une autre direction à mes idées, je serais devenu un homme remarquable, car il y avait en moi une haute capacité. Et qu'on ne pense pas ici que je veuille, pour étayer mon opinion, me targuer de quelques succès de collège. Non, ce n'est pas par ces triomphes futiles que je me juge, mais par cette vaste et profonde science du cœur humain que j'avais déjà acquise à 13 ans, moins encore par la lecture que par d'austères méditations et des observations constantes. Cet amour, cette fureur même d'observation, naquit en moi dès que je m'aperçus que je ne pouvais pas espérer de bonheur au sein de ma famille et dans mon entourage. Ne voyant alors personne de mon âge avec qui je puisse sympathiser, et forcé de me concentrer en moi-même et d'y chercher mes jouissances, je m'en créai une dans l'observation de tout ce qui m'entourait. Avec quelle persévérance je m'attachais à la connaissance du caractère des personnes qui fréquentaient la maison. Avec quelle délice, au bout d'un certain temps, je reconnaissais la justesse de mes remarques. Après une certaine série d'études de ce genre, je crus pouvoir conclure qu'une fois que l'on connaissait bien le cœur d'un homme, on pouvait à peu près les juger tous sur la même échelle. Cela était vrai dans un certain sens, mais bientôt je me détrompais, et une longue expérience m'a appris que ces replis sont innombrables et qu'il y a toujours de nouvelles découvertes à y faire. J'ai la prétention de croire que peu d'hommes sont arrivés à une connaissance aussi profonde en ce genre. Je me suis rarement trompé dans mes appréciations. En ai-je été plus heureux, hélas ! Cette science dessèche le cœur, malheur à celui qui s'y adonne. C'est un fer rouge qui brûle celui qui y porte la main. C'est cette connaissance funeste qui m'a appris à mépriser et presque à détester l'humanité. Homme, est-ce ma faute si je vous ai vu tel que vous êtes? Est-ce ma faute si j'ai vu partout l'intérêt personnel se couvrir du manteau de l'intérêt social? L'indifférence se cacher derrière l'amitié et le dévouement? La méchanceté et l'envie de nuire se décorer du beau nom de vertu et de religion? Tout enfant que j'étais, cette connaissance flétrit mon âme. Je me mis à penser que je serais bien à plaindre, bien malheureux, si un jour je venais avoir besoin de ces hommes que je voyais si égoïstes, si insensibles à tout ce qui n'est pas eux. Je compris, moi qui aurais placé tout mon bonheur à aimer et à être aimé, que je jouerais un rôle de dupe, si je ne travaillais à étouffer de ma propre main ma sensibilité. Peut-être, sans cette envie délirante de fouiller dans le cœur humain pour y découvrir ce qui aurait toujours dû m'être caché, peut-être aurais-je été heureux dans mes illusions. Le bonheur n'est-il pas une illusion lui-même? Existe-t-il en réalité? Mon enfance s'était passée tout entière à la campagne, sauf quelques courts séjours que nous venions faire à la ville pendant l'hiver. Mais enfin, mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, ayant atteint l'âge où l'on commence l'éducation, Mon père jugea à propos de venir se fixer tout à fait à Lyon. On nous mit tous les deux ensemble dans la même institution, car j'annonçais plus de facilité pour l'étude et j'étais au moins dès lors à son niveau. Mon frère se dessinera de lui-même d'une manière plus complète dans le cours de ses mémoires. Il me suffira de dire que c'était à cette époque un véritable enfant gâté, fort égoïste, mais nullement méchant, qui, content de dominer ses parents et de leur faire céder à tous ses caprices, ne cherchait aucunement à me tourmenter ni à étendre son influence jusque sur moi, me jugeant d'humeur à ne pas fléchir sous lui. Au résumé, je peux dire qu'alors, comme par la suite, nous n'avons jamais eu l'un pour l'autre ni affection ni répugnance, quoique je lui ai dit plus tard une partie des malheurs qui me sont arrivés. Mes débuts au collège annoncèrent la facilité que j'avais à apprendre, et pourtant, je travaillais très peu à mes devoirs d'écolier. Donc je sentis déjà les avantages de la science, mais certain, comme j'étais, d'apprendre assez tôt tout ce que l'on m'enseigne au collège, je ne me pressais pas, et je continuais à me livrer à mes méditations et à mes observations. Il est malheureux pour un enfant que les premiers faits qui viennent se présenter à son intelligence le frappent de la conviction de l'injustice de ceux qui l'entourent. Et qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a personne pour se connaître en injustice mieux qu'un enfant, personne qui calcule avec autant de justesse si l'on a tort ou raison à son égard. Malheur donc si ce sont les parents eux-mêmes qui lui en fournissent la première démonstration, s'il est forcé de donner raison contre eux. Quelle idée doit-il se faire du monde si ceux qu'il doit aimer et estimer les premiers se montrent à lui sous un point de vue désavantageux pour leur caractère? Dès ce moment, il commence à mépriser tous les hommes, et si plus tard il en rencontre qui le forcent à l'estime et à l'admiration, loin de revenir de sa prévention contre le genre humain, il les regarde comme de belles exceptions. En quittant seulement quelques instants par jour la maison paternelle, j'entrais déjà dans un monde nouveau pour moi. Au milieu de mes maîtres, de mes camarades, je fus frappé de nouvelles sensations, de nouvelles idées qui ne pouvaient être présentées à mon esprit dans l'intérieur de ma famille, où, comme je l'ai dit, je voyais très peu de personnes. Au bout de quelques jours, je fus remis de ces nouvelles émotions et je continuai mon rôle d'observateur. Je voulais absolument savoir si la justice existait. Hélas, il ne fut pas possible d'y croire longtemps. Dans nos maîtres, je ne trouvais que caprice, mauvaise humeur sans cause et provenant sans doute de leur position personnelle. Injuste préférence pour les élèves qui appartenaient aux parents les plus fortunés, pour ceux qui avaient un physique plus avantageux ou qui étaient couverts de plus beaux habits. Quant aux pauvres petits diables qui n'appartenaient qu'à des familles pauvres, qui étaient mal vêtus, malingres et d'une figure désagréable, c'était sur eux que tombait tout le fardeau de la mauvaise humeur. C'était des sujets qui servaient à l'expectoration de la bile du professeur. Ô Rousseau, ton Émile est le seul livre parmi les tiens que j'ai lu avec plaisir, parce que, malgré quelques théories peut-être impraticables, il est plein d'importantes vérités. Parents et maîtres de toute espèce, voulez-vous faire des élèves justes, vertueux et estimables ? Soyez-le vous-même, à leurs yeux. Mes camarades, simples enfants, me paraissaient bien supérieurs par leur caractère social. Il est vrai que je retrouvais encore chez eux la justice, la loi du plus fort. Un élève, connu par la vigueur de son bras, assez flatteur aussi. Mais que de dévouement, d'attachement, d'amitié sans restriction et surtout sans arrière-pensée. Il ne faut pourtant pas leur en faire un trop grand mérite. Tous ces sentiments-là sont détruits plus tard par des passions qui sont inconnues aux enfants, l'ambition et l'avarice. L'orgueil est de tout âge. À cette époque, c'est-à-dire à peu près en 1810, l'instruction religieuse entrait pour bien peu de choses dans l'éducation publique et dans les lycées. Ce n'était qu'une partie accessoire. Aussi s'inquiétait-on très peu de notre plus ou moins de ferveur à cet égard. Je suis sûr que si je ne continuais pas beaucoup, beaucoup de personnes s'écrieraient qu'il n'est pas étonnant que je sois devenu un scélérat. Attendez, je n'étais certainement pas venu jusqu'à cet âge, élevé chez mes parents, que j'ai déjà fait connaître par leur amour pour la religion, sans y avoir été poussé. Tout se faisait à la maison, au nom de Dieu. C'était à lui qu'on rapportait toutes ses actions. Il n'y avait que mon frère qui avait le privilège de plaisanter quelquefois à cet égard. J'avais voulu me le permettre une seule fois. J'avais été traité de monstre. Je ne récidivais pas. Ici, 9 lignes censurées. Sans doute on ne le connaît pas bien encore. J'essaierai de le connaître, moi. J'interrogeais le fond de mon cœur et de bonne foi, je vous assure, 2 lignes censurées. Certainement, dans mon système, bien des choses m'embarrassaient, comme elles m'embarrassent encore. Je n'avais pas encore un raisonnement assez profond pour en établir un qui me parut irréfutable. 3 lignes censurées. La seule chose dont je demeurais bien convaincu, c'est que, soit qu'il y eût un Dieu, soit qu'il n'y en eût pas, cela ne devait rien changer à ma conduite, qui n'avait jamais eu besoin du culte, que la seule manière de l'honorer était d'être juste avec les autres hommes. Car, me disais-je, nous sentons bien évidemment au-dedans de nous ce qui est bien ou ce qui est mal, le vice ou la vertu. Dieu n'a pas voulu nous en faire un mystère parce qu'il a voulu que nous y conformassions notre conduite. Donc, s'il eût voulu que l'on crût à lui, qu'on lui adressât un culte quelconque, il se serait révélé au cœur de chaque homme, de manière à ne lui laisser aucun doute. Ces réflexions me sont venues lorsque j'étais bien jeune. Mais j'abandonnais autant à me convaincre, et je continuais à m'abandonner aux recherches avec la plus grande bonne foi. Mais je dois convenir que c'est de là que je suis parti. Cependant, nous continuions, mon frère et moi, le cours de nos études. Nous étions entrés tous les deux au lycée de Lyon, lui en 5e et moi en 6e. C'était encore une nouvelle injustice, mais comme il était mon aîné, on avait voulu lui épargner la honte de ne pas paraître plus avancé que moi. Dans le fait, j'aurais pu, moi, entrer en 5e, et lui tout au plus en 7e. Il était, du moins, sous le rapport de l'étude, d'une incapacité désespérante. Aussi, au bout de quelque temps, il fut question de le faire descendre dans une classe inférieure. Alors, on chercha à nous séparer. L'occasion s'en présenta facilement. Un beau jour, mon frère revint tout en pleurs en se plaignant que son professeur l'avait traité de paresseux et l'avait fait mettre à genoux. Ce fut de la maison un concert de malédictions contre ce brutal de professeur qui avait osé prendre une semblable licence envers ce pauvre enfant. Me retira mon frère, et depuis il n'a plus quitté la maison. On n'a plus voulu le commettre avec des gens si peu respectueux. Quant à moi, je serais bien revenu roué de coups. On lui dit que c'était bien fait, que je l'avais bien mérité. Mais déjà, je n'y attachais plus aucune importance. J'avais vu, dès mon entrée à la maison, mes parents établir une odieuse distinction entre mon frère et moi. Distinction qui exista plus tard également entre mes deux sœurs, Julie et Louise, et qui était aussi révoltante. Non seulement mon père et ma mère avaient une injuste préférence pour mon frère, mais encore il fallait à la maison que tous ceux qui la fréquentaient s'y conformassent, sous peine de perdre les bonnes grâces de ma famille. Un étranger qui serait venu pour la première fois et frappé de me voir espiègle et éveillé m'eût accordé quelques caresses sans faire attention à mon frère, eût déplu du premier coup et n'aurait jamais été invité à y revenir. Quelque enfant que je fusse, j'avais trop d'intelligence pour ne pas m'en apercevoir. D'ailleurs, on ne prenait pas la peine de se cacher. Il y avait dans cette conduite une impudeur de préférence qui a choqué beaucoup de personnes. Dès les premiers temps, j'avais été très sensible, mais enfin, après en avoir été révolté, je m'étais mis à réfléchir que je serais bien dupe de me rendre malheureux moi-même s'il n'y avait rien de ma faute. On est en général assez mauvais juge dans sa propre cause, je le sentais. Mais j'avais un sujet de comparaison devant les yeux. La même injustice existait dans la conduite de mes parents entre mes sœurs Julie et Louise. Certes, c'étaient de charmantes enfants toutes les deux. Toutes les deux, je les ai aimées et j'en ai été de même beaucoup aimée. Quoique je donnais, moi, la préférence à Julie, précisément parce que c'était celle qui était la moins caressée à la maison. Pourtant, elle était l'aînée, elle avait un cœur admirable, des sentiments nobles et distingués, même au-dessus de son âge. Eh bien, ce n'était que rigueur pour elle et douceur pour Louise. Explique qui pourra ces bizarreries de la nature, cette injustice de la part d'une mère. Mais ce qui n'est peut-être pas moins bizarre, c'est que, quoique mon frère et Louise aient été ce que l'on peut appeler gâtés par leurs parents, mon frère a toujours été un bon enfant, malgré son égoïsme, et Louise une fille très douce et nullement impérieuse. Ce qu'il y a encore de bizarre, c'est que ni moi ni Julie n'avons jamais détesté mon frère et Louise, qui semblaient nous enlever toute l'affection de mon père et de ma mère. J'étais juste, je ne pouvais en vouloir à mon frère. Il ne faisait rien pour me faire de la peine. Ce n'était pas à lui qu'il fallait m'en prendre, si on le préférait à moi, car il ne cherchait pas à me nuire dans l'esprit de mes parents. Une fois bien persuadé qu'il n'y avait rien de ma faute et que je n'étais pas attiré les injustices dont j'étais la victime à la maison, je ne pris plus garde à l'indifférence et même à l'aversion de ma mère. Dès ce moment, je ne fis plus rien pour regagner son affection. J'attendis qu'elle revînt d'elle-même à moi. Cela est arrivé, en effet, hélas, mais trop tard pour tous les deux. C'est ainsi que je peux dire en avoir toujours agi dans le cours de ma vie. Toutes les fois que j'ai eu à commettre une action hors des sens, des usages, des préjugés, des convenances et même des lois de la société, je me suis toujours interrogé avec bonne foi et je me suis demandé si j'avais tort ou raison. Une fois convaincu que la justice était de mon côté, je marchais à mon but sans hésitation et sans crainte. Et si j'ai souvent commis des actions qui étaient et me paraissaient condamnables en elles-mêmes, c'est qu'elles m'étaient devenues absolument nécessaires. Et je me rendais encore la justice que ce n'était pas de ma faute si je me trouvais dans cette position extrême. Triste excuse pour la société et pour moi.